Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Le Secret du Destrier. Philadelphie, le 5 juillet 1854, un bâtiment est en feu. Silas Mitchell se précipite sur les lieux, mais il est déjà trop tard. Il racontera plus tard qu'à travers le vacarme des flammes, il croyait avoir entendu une voix murmurer deux fois le même mot « échec, échec ». Ce jour-là, c'était la fin d'une arnaque hallucinante, 84 ans d'arnaque et sûrement la plus grande supercherie technologique de l'histoire. 84 ans est une énigme pour la plupart des gens, il existe encore aujourd'hui des énigmes. Par exemple, en ce moment, quelque part en France, une énigme à 20 000 euros en or que personne n'a encore résolue. C'est le partenariat du jour dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Un homme qui signe sous le nom de Mr. X a passé 5 ans à construire cette énigme autour des échecs. Il y a un coffre qui a été enterré. Pour le gagner, il n'y a même pas besoin de creuser pour le déterrer. Il n'y a pas besoin de bouger de chez soi. Si vous résolvez les 7 énigmes depuis votre canapé, que vous envoyez la solution finale, que vous êtes le premier à avoir tout juste, alors c'est à vous. Le jeu est officiel, le règlement est déposé chez un commissaire de justice et surtout, la chasse vient tout juste de commencer. Personne n'a encore trouvé. La thématique, comme pour cette vidéo, ce sont les échecs, mais il n'y a pas besoin d'être fort aux échecs pour résoudre la chasse. Juste quelques bases que vous pouvez vite apprendre et ça suffit. Je vous mets tout ça en description, l'accès est immédiat après inscription, donc vous pouvez commencer aujourd'hui et surtout, je vous en reparle à la fin de la vidéo, avec même un exemple d'énigme. Bon, parce que cette chasse est vraiment très originale, j'ai vraiment envie de la défendre au-delà du partenariat et surtout, parce que ce partenariat, c'est peut-être la meilleure illustration que j'ai jamais trouvée pour introduire ce que je vais vous raconter aujourd'hui. La vidéo est hallucinante, vous allez adorer ça. Il y a eu dans l'histoire une autre énigme autour des échecs. Une autre construction qui a été pensée pour résister à l'intelligence de tous ceux qui l'attaquaient. Le secret, je vous l'ai dit, a tenu 84 ans. Voici ce que c'est, voici pourquoi, voici comment. Nous sommes à Vienne en 1769 dans les salons du palais de Schönbrunn. Il s'agit ni plus ni moins de la résidence d'été de la famille impériale de Habsbourg. Ou Habsbourg, on peut ne pas prononcer le G. Et ce soir-là, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche assiste à un spectacle de magie. Dans l'assistance, dans le public, il y a un homme qui regarde ça et un peu ennuyé, un peu agacé. Il s'appelle Wolfgang von Kampelen. Il est ingénieur, il est architecte, il est inventeur prolifique. Et pas que ça, il est également polyglotte, secrétaire à la cour impériale, etc. Donc c'est un homme brillant. Et il a horreur d'être impressionné. Normalement, c'est lui qui impressionne les autres. Il se lève et dit à l'impératrice que c'est facile de faire ça, qu'il peut faire mieux. Alors elle lui dit, bah, allez-y, faites mieux. Il dit, d'accord, je reviendrai avec une invention qui surpassera de loin tout ce qu'elle vient de voir ce soir, ces petits tours de passe-passe. Marie-Thérèse lui dit, d'accord, vous avez 6 mois pour me surprendre. Et pour comprendre ce que Kampelen va faire, il faut comprendre l'époque. Au XVIIIe siècle, les gens sont autant fascinés par les automates que nous, on l'est aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Les meilleurs ingénieurs d'Europe construisent des machines qui imitent la vie. Jacques de Vaucauson, par exemple, vous ne connaissez pas, mais il a stupéfié Paris avec un canard mécanique capable de manger des grains et de les digérer. Bah, pas exactement, mais vous voyez l'idée. Les frères Jacquet créaient des sortes d'androïdes capables d'écrire des lettres et de dessiner des portraits avec une précision assez troublante pour l'époque. D'ailleurs, posséder un automate dans une cour royale, c'est afficher qu'on est moderne. On démontre une sorte de puissance mécanique sur la raison humaine. Le problème, c'est qu'aucun de ces automates n'est vraiment intelligent, bien sûr. Les machines ne décident pas, elles ne comprennent pas, elles ne s'adaptent pas. Ce sont des mécanismes à rouage, c'est préprogrammé, donc ça répète toujours le même geste. Mais ce que Kampelen va présenter, c'est d'une nature radicalement différente et ça peut littéralement révolutionner la technologie mondiale avec des centaines d'années d'avance. Seulement 6 mois plus tard, en 1770, il revient et ce qu'il présente va mystifier le monde pendant 8 décennies. Son invention, que lui-même va considérer comme une petite invention sans importance, c'est une machine. Un grand coffre en bois de plus d'un mètre monté sur des roulettes avec un échiquier fixé sur le dessus et derrière cet échiquier, une figure grandeur nature, un mannequin qui ressemble à un homme en tenue ottomane. Turban sur la tête, longue pipe à la main, moustache noire, les yeux en vert gris, on l'appelle le Turc. Et le Turc, il joue aux échecs. Attention, il ne simule pas un joueur d'échecs. Ah non, il ne joue pas mécaniquement de façon prévisible. Il observe le jeu, il réfléchit, et il déplace ses pièces avec un bras articulé et il gagne quasiment à chaque fois. Est-ce que je vous rappelle encore une fois qu'on est qu'au XVIIIe siècle? En quelques semaines, toute Vienne ne parle que de ça. Vous imaginez ce que c'est pour eux à l'époque, une machine qui pense et qui joue aux échecs comme un maître. Comment c'est possible? Je veux dire, même moi, il y a quelques années, quand ChatGPT s'est lancé, au tout début, je vous assure que c'est vrai, j'ai cru que c'était un peu un canular tellement la technologie était bluffante. 24 heures avant la sortie de ChatGPT, pour nous, l'interface homme-machine, c'était Siri. Bon, comment marche cette invention? La réponse, vous l'avez sûrement deviné depuis le début, et c'est pas ça les vrais rebondissements qui vont vous faire halluciner dans cette vidéo. La réponse est qu'il y avait un homme caché à l'intérieur. Mais cette réponse, elle n'est pas si simple, vous allez le voir. Et surtout, elle a mis 84 ans à être pleinement prouvée. Et c'est le chemin pour y arriver qui est extraordinaire. Vous allez adorer le génie de la mise en scène qu'il y avait derrière. Avant chaque partie, déjà Kaplan ouvrait les portes du cabinet devant le public. D'abord la porte gauche, où on découvrait un enchevêtrement de rouages, de bielles, de cylindres qui ressemble à l'intérieur d'une horloge géante, ni plus ni moins. Et ensuite la porte de droite, où se trouve un espace presque vide, avec quelques poids et quelques contrepoids. Il veut faire voir qu'il n'y a rien à cacher. Il soulève les vêtements du mannequin pour montrer que le corps est vide et il remonte la machine avec une clé. Vous avez une clé comme ça, comme pour tendre un ressort, et ça produit d'ailleurs un bruit d'horlogerie. Et enfin, il annonce que le Turc est prêt. Ce rituel, c'est un petit chef-d'œuvre de bluff, d'illusion cognitive. Kaplan ne montre jamais l'intérieur entier en même temps. Il fait des séquences, et c'est ça qui donne l'illusion d'une transparence totale. Pendant qu'il ouvre la porte d'un côté, l'opérateur, on dira l'opérateur pour la personne qui joue aux échecs à l'intérieur, l'opérateur donc qui est caché à l'intérieur se glisse silencieusement de l'autre côté, sur un siège qui est monté sur des rails, et après il fait le chemin inverse. Et évidemment, tous les rouages que vous voyez, c'est de la déco, ça ne sert à rien, ils sont là uniquement pour qu'on pense que la machine pense elle-même. Et la manière dont l'opérateur contrôle l'automate et comprend le jeu, ça c'est hyper bluffant. L'opérateur suit le jeu de la manière suivante, chaque pièce d'échec contient un aimant à sa base. Sous l'échiquier, il y a 64 petits leviers métalliques qui bougent en fonction des déplacements des pièces. L'opérateur au-dessus lui voit donc se reproduire sur un mini échiquier intérieur chaque coup de son adversaire et le reporte sur une feuille de papier. Et pour répondre son coup, et ça c'est hyper fort, il utilise un pantographe, c'est un système de leviers articulés, c'est ça qui va transmettre des mouvements au bras du mannequin. Et comment il voit à l'intérieur ? Avec une bougie, et la petite fumée qui est très légère remonte discrètement à travers le turban du Turc. Et il y a aussi, entre autres choses, un mécanisme d'horlogerie pour produire un bruit de rouage à chaque coup pour parfaire un peu l'illusion. C'est brillant parce que c'est une ingénierie de l'attention. Chaque détail a été pensé pour orienter notre regard et notre pensée ailleurs. Mais les spectateurs sont divisés parce que beaucoup sont convaincus que c'est un prodige mécanique, mais il y en a d'autres, quand même, qui trouvent ça un peu louche. Mais ils savent pas quoi. Ils ne savent pas dire ce qui est vraiment louche. Ils proposent des théories un peu farfelues. Il y aurait des fils invisibles, il y aurait des aimants, du magnétisme externe. Il y a un anglais sceptique qui s'appelle Philip Sickness qui a publié un pamphlet affirmant qu'un enfant était dissimulé à l'intérieur de la machine. Il n'est pas loin de la vérité. Il explique qu'il y a tout un jeu de magnétisme en fait pour faire fonctionner la machine, etc. Kaplan va répondre avec élégance du coup, puisqu'il invite les sceptiques à poser des aimants très puissants sur le Turc pour prouver que le mécanisme n'est pas perturbé par une question de magnétisme. Et c'est vrai, ce n'est pas les éléments qui vont perturber le fonctionnement de la machine. Par contre, la suite est étonnante. Le Turc commence à voyager. À chaque étape, il affronte des adversaires, mais pas n'importe lesquels. Des personnes très célèbres. En 1783, à Paris, à l'époque, c'est un peu le centre intellectuel du monde, il est présenté au Café de la Régence, le temple des joueurs d'échecs, où se croisent Diderot, Voltaire. En parlant de Voltaire, je vous invite à regarder la vidéo récente que j'ai sortie sur lui. C'était pas très connu, mais il a réussi à trafiquer, je parle bien de Voltaire, hein, la loterie de Paris et l'État pendant des mois, et c'est ça qui a fait sa fortune. Oui, le même gars qui a posé les fondements de la Déclaration des droits de l'homme. Comme ça, vous pourrez revoir cet épisode et ceux que vous aviez ratés. Je reviens sur notre automate. Le plus grand joueur vivant, François-André d'Anican Philidor, l'affronte et Philidor gagne contre le Turc. Mais le fils de Philidor va raconter plus tard que son père, quand il en parlait, il considérait cette partie comme étant la plus éprouvante de toute sa carrière, ce qui est une façon involontaire de rendre hommage à la qualité de l'opérateur qui était caché à l'intérieur ce jour-là. On y reviendra, c'est pas toujours le même. Et je vais être honnête avec vous, je connaissais un peu l'histoire du Turc, mais pas à ce point-là. Les recherches que j'ai pu faire m'ont amené aussi à découvrir que le Turc a affronté Benjamin Franklin. Il était ambassadeur des jeunes États-Unis en France à l'époque, c'est fou. Franklin, qui était curieux de tout, passionné de mécanismes, a été subjugué et va conserver dans sa bibliothèque jusqu'à la fin de sa vie un exemplaire du pamphlet tentant de percer le secret de la machine. Certains récits mentionnent aussi comme adversaire Frédéric le Grand de Prusse. Les historiens aujourd'hui sont très prudents sur cet épisode-là, ça manque de preuves solides. Et ce sera un autre tournant dans la vidéo parce que le Turc a généré ses propres légendes et certaines sont considérées comme étant admises par tout un corpus, on les trouve aujourd'hui relayées quand on fait des recherches, mais ces légendes parfois sont elles-mêmes des inventions. Je vous présenterai la plus étonnante d'entre elles à la fin. Ce cher Kaplan meurt en 1804, il n'a jamais révélé son secret publiquement, il n'a jamais dit qu'il y avait quelqu'un caché à l'intérieur, évidemment. Le Turc est remisé, mais il n'a pas dit son dernier mot. C'est là que la vraie histoire commence pour moi. Il y a un mécanicien bavarois, du nom de Johann Nepomuk Meltzel. Il va racheter la machine pour 10 000 francs au fils Kaplan. Meltzel, c'est un personnage fascinant. Déjà, déjà parce qu'il est inventeur, il est musicien. J'ai découvert que c'est un ami proche de Beethoven, pour info. C'est lui qui a conçu ces cornets acoustiques qu'on voit des fois dans les représentations de Beethoven. Et surtout, c'est un showman de génie. Il achète le truc, comprend tout de suite le secret, avec le siège, avec les mécanismes pour bouger à l'intérieur, tout est très clair. Il va rien dire. Il va améliorer le turc en ajoutant une petite boîte vocale qui est capable de prononcer « échec » en français lors des mises en échec. En 1809, il organise la rencontre la plus mémorable de toute l'histoire du Turc contre Napoléon Bonaparte qui veut jouer contre l'automate. Je vous ai dit, l'histoire est folle, c'est un espèce de métaverse où ce Turc, qui a un faux automate, traverse le monde et rencontre les plus grands. Et là, on est à Vienne, Napoléon est dans son palais après la bataille de Wagram, l'opérateur caché ce jour-là, c'est probablement, et pas sûr à 100%, Johann Baptiste Allgeier. En tout cas, les sources de l'époque le désignent ainsi, et Johann Baptiste, c'est l'un des meilleurs joueurs d'échecs d'Europe. Comment Metzel l'a convaincu? On y revient juste après. Napoléon insiste pour jouer les blancs et effectue le premier coup, et c'est contraire au protocole habituel. Metzel accepte, la partie commence, et Napoléon, Bonaparte, triche. Une première fois, il pose une pièce, mais il fait un mouvement qui n'est pas un mouvement autorisé par les règles. Le bras du Turc se lève doucement, reprend la pièce, et la remet sur sa place initiale. Napoléon recommence, il prend une pièce, il fait un mouvement interdit avec, le Turc remet encore la pièce, puis joue son propre coup. Troisième tentative de Napoléon pour tricher face à l'automate, et là, le Turc, d'un revers du bras mécanique, va balayer toutes les pièces de l'échiquier. La réaction de Napoléon, ça va être d'éclater de rire, d'accepter les règles et de se mettre enfin à jouer sérieusement. Il est battu pour info à la fin de la partie. Les récits divergent sur les détails exacts parce que certains évoquent une deuxième partie qui aurait été jouée juste après, d'autres non, mais toutes les sources s'accordent à dire que Napoléon a perdu. Alors on y vient, est-ce qu'on en parle de ces personnes qui sont enfermées dans la boîte du Turc?
Oui.
En 1826, Metzel traverse l'Atlantique, il arrive à New York en pleine révolution industrielle. Le succès est immédiat, il y a des centaines de visiteurs qui viennent chaque jour, le Turc parcourt les grandes villes américaines pendant plus d'une décennie avec toujours des adversaires légendaires, mais l'envers du décor est sombre. Derrière toutes les victoires du Turc, il y a des hommes, des maîtres d'échecs qui passent des heures et des heures dans des tout petits étroits exigus éclairés par la lumière d'une bougie, qui respirent l'air confiné, un peu vicié du cabinet pour donner vie aux faux automates. L'un d'eux a retenu mon attention, c'est Jacques-François Mouret. C'est le petit-neveu du grand Philidor. Oui, oui, le grand Philidor qui avait battu le Turc, je ne sais pas si vous vous souvenez, en France. Son neveu a été formé au Café de la Régence, sur 50 parties documentées à Londres, jouées avec un handicap de pion en faveur de l'adversaire, il en a gagné 45. 3 défaites, 2 nuls. Pourquoi il accepte ça d'après vous, Mouret? Parce qu'il a un souci, il est alcoolique. Il finit d'ailleurs ruiné et malade, et c'est sûrement pour ça, ce n'est qu'une hypothèse, qu'il a accepté ce piètre travail dans la boîte. Une fuite sur l'automate vient probablement de lui. En 1834, il aurait peut-être vendu Le secret du Turc à un magazine dans un article qui a été publié anonymement. C'est une spéculation, mais c'est le premier papier vraiment informé du mécanisme. Je pense que ça vient de lui, mais de toute manière, personne ne le lit vraiment. Mouret ne va jamais guérir de son alcoolisme et il va mourir 3 ans plus tard dans la misère. L'opérateur principal de la tournée américaine, il s'appelle William Schlumberger. C'est un maître d'échecs alsacien et quand il voyage en tant que secrétaire de Metzel. Bah oui, il fallait bien un titre de couverture pour justifier sa présence. Donc il est toujours présent aux exhibitions, mais c'est un peu comme Superman. Juste avant le début de la partie, il disparaît, après la partie, il réapparaît. Ce détail-là, ce tout petit détail, quelqu'un va le remarquer, ça va changer l'histoire de cette personne, ça va changer l'histoire du milieu littéraire, et ça va même créer Sherlock Holmes, ça va créer toutes les séries policières que vous connaissez. Quand je vous dis que l'histoire est folle, en décembre 1835, le Turc est exposé à Richmond, en Virginie. Dans le public se trouve un jeune écrivain de 26 ans, il est rédacteur en chef adjoint d'un journal littéraire local. Son nom ne dit rien à personne pour le moment, il s'appelle Edgar Allan Poe. C'est lui qui va devenir le précurseur du genre fantastique, et même de la science-fiction un peu en général. Poe est fasciné, mais pas comme le grand public. Lui, il veut comprendre, il se dit « il y a un truc, il faut que je comprenne ce qu'il y a dans l'envers du décor ». Alors, il revient voir l'exhibition plusieurs fois, et en avril 1836, il publie un essai qui s'appelle « Metzel Chess Player », un texte qui va devenir l'une des analyses les plus célèbres de l'histoire de la littérature américaine et qui va changer à tout jamais la façon dont Poe va écrire. Je vous l'ai dit et j'y reviendrai, c'est l'un des points qui m'a fasciné le plus durant mes recherches. C'est fou de voir que cette supercherie a influencé le style d'un des auteurs les plus légendaires, qui est considéré aujourd'hui comme l'inventeur du roman policier. L'argument de Poe, c'est de dire que les échecs, c'est pas du calcul. et il n'a pas tort. Un calcul arithmétique, ça suit un chemin déterministe, c'est-à-dire vous lui donnez des données, les mêmes données, et il va produire les mêmes résultats avec les mêmes données. Les échecs, c'est pas pareil. Même si on a les mêmes données à un moment donné de la partie. Les échecs, ça dépend des décisions imprévisibles de l'adversaire, ça dépend de ses erreurs, ça dépend de ses intentions. Donc Poe se dit que si le Turc était réellement une machine autonome, alors ce serait la plus grande invention de toute l'histoire de l'humanité. Et personne ne traite l'automate du Turc comme la plus grande invention de toute l'humanité. Personne ne cherche à dupliquer cette technologie pour faire d'autres choses de plus utiles que de jouer aux échecs. Et c'est ce constat simple, mais d'une logique implacable, qui suffit à prouver à Poe qu'on cache quelque chose de plus simple que l'automate. À force d'aller voir l'automate jouer sans jamais l'approcher, Poe aligne 17 observations, 17 sans jamais avoir eu accès à l'intérieur de la machine. Il note que le Turc perd parfois, alors qu'une machine parfaitement programmée gagnerait toujours. Il n'y a pas de raison. Il note que la durée de réflexion varie selon la complexité du coup. Il note que les positions simples sont jouées plus rapidement que les complexes. Les complexes, elles prennent du temps. Ça déjà, ça trahit plutôt un esprit humain selon Poe. Il note que le nombre de coups joués ne correspond pas au degré du remontage de la clé. Ça, c'est super malin. Parce qu'une vraie machine mécanique s'arrêterait quand le ressort est détendu. Là, ça s'arrête toujours, étonnamment, quand c'est la fin de la partie. Et puis, il y a Schlumberger. Poe note que cet homme est systématiquement présent durant les exhibitions, du moins au début, et qu'une fois où il était venu voir une partie, comme par hasard, quand Schlumberger était malade, les exhibitions ont été annulées. Poe termine sa démonstration en laissant sa conclusion au lecteur. Il écrit « Il est tout à fait certain que les opérations de l'automate sont régulées par l'esprit et par rien d'autre. » Et Poe a tout juste. Il n'y a pas une affirmation qui est fausse. Je répète, il n'a pas ouvert la boîte, il a juste raisonné pour trouver la meilleure hypothèse possible avec des arguments à chaque fois. Il y a juste certaines hypothèses sur les points de détail, par exemple la position exacte de l'opérateur de la machine, qui ne sont pas exactement bonnes. Parce que je vais vous raconter la fin de l'automate quand même. Mais avant, on revient à Poe, il a réussi sa démonstration et je ne pensais pas, vraiment pas, ça m'emmènerait là, mais c'est vertigineux de savoir que donc, c'est la méthode que Poe a mis au point pour comprendre le fonctionnement de la machine, sans accès direct à la scène, qui va lui inspirer directement ses récits policiers. C'est là que naît, pour la première fois dans l'histoire de la littérature, le personnage du détective qui résout une affaire par logique pure. Et le personnage de Poe qui va résoudre des affaires avec la logique, suite à ça, va inspirer directement Arthur Conan Doyle pour la création d'un certain Sherlock Holmes. Et ça vient pas de moi, c'est bien Doyle qui le dit, je savais pas, c'est fou. Ça va donner Columbo, ça va donner aujourd'hui toutes les séries et les films où vous avez comme ça un enquêteur qui, avec de la logique, essaye de résoudre quelque chose. Mais, je vous avais promis ce passage, maintenant je vais vous dire quelque chose d'important. Si vous cherchez des informations sur le Turc mécanique, vous allez certainement tomber sur une histoire particulièrement romanesque, une histoire sur laquelle j'étais tombé quand nous avions produit sur cette chaîne YouTube un documentaire il y a quelques années, un docu complet sur Robert Houdin, le français, considéré comme le père de la magie moderne. À l'occasion, regardez cette vidéo, c'est sûrement l'une des plus belles de ma chaîne YouTube. L'histoire en question est celle d'un officier polonais du nom de Worusky, un génie des échecs, qui aurait eu les deux jambes emportées par un boulet de canon lors d'une insurrection contre Catherine la Grande. Képlen, pour le sauver, l'aurait dissimulé à l'intérieur du Turc pour lui permettre de traverser l'Europe sans être reconnu. L'automate lui aurait donc servi de cachette. Mais c'est surtout une fiction complètement inventée par le magicien français Jean-Eugène Robert Houdin lui-même dans son autobiographie de 1858. En fait, finalement, Robert Houdin, il a romancé pas mal de trucs de son autobio. Mais pour le Turc, déjà, il raconte ça 50 ans après les événements qu'il prétend raconter. Et c'est pas très dur de calculer que finalement, Robert Houdin avait que 4 ans à la mort de Képlen. Ça résiste pas à un examen rapide parce que le Turc a fait ses débuts en 1770, donc 26 ans avant l'insurrection polonaise, ça marche pas du tout. Mais j'ai failli la croire vraie parce que cette légende, elle a quand même été reprise comme étant vraie par l'Encyclopédie britannique. L'histoire a inspiré un roman, elle a inspiré un film, et du coup ça circule encore partout aujourd'hui comme si c'était vrai, et peut-être même si vous parlez de ça à quelqu'un, il vous ressortira cette histoire, mais je vous dis c'est faux. Pour moi c'est une des grandes leçons de cette histoire, c'est-à-dire que l'arnaque du Turc a produit ses propres arnaques. Metzel ne verra pas la fin de l'histoire. En 1837, il emmène le Turc pour une dernière tournée à Cuba et son opérateur, Schlumberger, contracte la fièvre jaune à la Havane, il meurt, Metzel est brisé, il peut plus continuer, il trouve personne à qui partager le secret, qui sera assez doué aux échecs, etc. Il perd le sens de tout, il va mourir lui-même en mer le 21 juillet 1838 pendant le voyage de retour. Le Turc est racheté aux enchères à Philadelphie, souvenez-vous du début de la vidéo, et il finit entre les mains d'un médecin nommé John Mitchell. John Mitchell, je fais un peu de recherche sur lui, imaginez ma tête quand je découvre que John Mitchell, c'était, et ça n'a rien à voir avec le rachat du Turc, hein, c'était le médecin personnel d'Edgar Allan Poe sur la fin de sa vie. Je vous dis, c'est métaverse. Bref, Mitchell comprend comment fonctionne la machine, il la restaure patiemment, il l'installe dans un musée pour qu'on puisse la voir, pour ceux qui avaient entendu parler de cette histoire et qu'on puisse comprendre comment elle fonctionnait. Et c'est là qu'on revient à la nuit dont je vous ai parlé au tout début, le 5 juillet 1854, l'incendie qui se déclare dans un théâtre à côté du musée, les flammes atteignent le musée, et le fils de Mitchell, Silas, se précipite sur les lieux, il va arriver trop tard, il racontera, vraiment, c'est dans les témoignages, que dans le vacarme de l'incendie, il croit avoir entendu une dernière fois le fameux son qu'on avait rajouté à la machine, échec. La machine aurait prononcé le mot deux fois avant de brûler complètement. Cette fausse machine qui avait mystifié l'Europe, humilié Napoléon, résisté à des dizaines d'esprits brillants, disparaît en fumée, il ne reste plus rien. En 1857, Silas va publier le premier exposé complet et exact du mécanisme qu'il avait pu étudier avant que la machine brûle. Et comme la machine était détruite, bah, il s'est dit autant révéler vraiment publiquement le secret. Et l'histoire s'arrête pas là, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. En 1819, le mathématicien anglais Charles Babbage avait affronté le Turc à Londres. Il avait perdu les deux parties. Il avait compris le trucage, mais l'expérience l'avait marqué, mais il avait vraiment compris qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et ça l'avait poussé à se demander sérieusement si une vraie machine pouvait un jour jouer aux échecs par elle-même. Et cette question, elle a nourri directement ses travaux sur la machine analytique qui deviendra le premier concept de calculateur programmable universel, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ordinateur moderne. En 1912, le mathématicien Leonardo Torres y Quevedo construit le premier véritable automate joueur d'échecs de l'histoire, capable de jouer seul une fin de partie seulement, pas une partie entière, et encore une fin de partie sous condition, c'est une fin de partie roi et tour contre roi. Ce que le Turc avait simulé pendant 84 ans devenait réel, et en 1997, Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs, va perdre sa fameuse partie contre Deep Blue, le super ordinateur d'IBM, et là Kasparov va accuser IBM d'avoir fait intervenir en secret un grand maître humain à distance parce qu'il était incapable de croire qu'une machine puisse posséder une telle intuition du jeu. En 2005, Jeff Bezos lance une plateforme de micro-travail qu'il appelle Amazon Mechanical Turk. Le concept, c'est que des milliers de travailleurs humains anonymes effectuent des petites tâches simples que les algorithmes ne maîtrisent pas encore, ne peuvent pas faire. Donc ces humains, ils sont cachés derrière une interface informatique. Bezos va lui-même qualifier cette interface informatique d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'il l'appelle avec ce nom, en référence directe à notre histoire du jour. Je veux dire, c'est quand même fou qu'en 1770, Kepler fasse passer un humain pour une machine, et qu'en 2005, Amazon fasse rebelote avec le même nom, fasse passer des humains pour de l'intelligence artificielle. 235 ans d'intervalle, exactement le même principe. Mais ce qui m'a frappé en travaillant sur cette vidéo, c'est pas seulement le secret en lui-même, mais c'est la qualité de la construction qui l'a protégé. Kepler avait tout anticipé. C'est-à-dire toutes les fausses pistes, tous les moments où le scepticisme pouvait surgir et le trahir, les gens doutaient, mais les gens n'arrivaient pas à le confronter. La machine était conçue pour résister à l'intelligence de ceux qui l'attaquaient. C'est ça que je vous ai dit au début de la vidéo, quand je vous ai parlé d'une chasse au trésor que je trouve particulièrement originale et qui a eu la sympathie de sponsoriser cette vidéo. J'ai assez peu d'échanges avec le créateur de la chasse, c'est Monsieur X, et il a passé 5 ans à faire la même chose que Kepler, mais dans l'autre sens. Alors il n'a pas caché un humain dans une machine, mais il a caché une solution dans cette énigme. La différence avec le Turc, c'est qu'ici, vous êtes du bon côté de l'échiquier. Vous n'êtes pas la victime de l'illusion, au contraire, vous allez être ce coup-ci comme Edgar Allan Poe, vous allez être l'enquêteur qui va tenter de gagner les 20 000 euros sans avoir à creuser nulle part, je vous le rappelle. J'ai obtenu l'autorisation de vous montrer une des énigmes. Elle est composée de ceci, vous le verrez un peu mieux à l'écran, j'imagine que Loïc va vous le mettre, et de ce dessin-là. J'ai pas la solution, je suis vraiment comme vous, mais évidemment, j'ai commencé à l'analyser un petit peu. La première chose qui me frappe, c'est que c'est pas un problème d'échec classique, c'est pas que un trouver le meilleur coup. Il y a d'autres choses à trouver. Bon, on a la partie, il y a table qui apparaît. Dans le vocabulaire des échecs, ça peut évoquer le trait au blanc, donc le fait que les blancs jouent en premier. Ce qui m'amène à chercher une séquence de coups forcés. Et là, on est sur ce que les joueurs d'échecs appellent une fourchette. Une attaque qui vise deux pièces simultanément et qui laisse aucune issue. Ça ressemble à une piste, c'est pas sûr que ce soit ça. Il y a aussi cette illustration qui s'appelle « Un fou avise bien un sage ». Déjà, j'ai envie de décortiquer le titre. Je sais pas, de chercher un anagramme ou quelque chose d'autre dedans. Il y a la notion de fou aussi, les fous, on les voit dans l'illustration, donc les fous se déplacent en diagonale, donc je ferais bien des tracés aussi pour voir où mènent les diagonales sur des points qui me semblent intéressants. Faudrait voir ce que ça donne, peut-être en reliant aussi les quatre fous.
directement de l'image.
Il y a la lumière aussi, elle semble avoir un sens important. C'est une question de logique, d'observation et de réflexion. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas à avoir un niveau d'échec, juste les bases qu'on peut acquérir vite fait sur Internet ou on peut aller checker de temps en temps. Bon là, quand je vois des chiffres avec des points, et on voit qu'il y a des écarts, il n'y a pas des points partout, donc ça se différencie. Et là, surtout, je vois une petite apostrophe ici. Ça veut dire qu'on doit pouvoir traduire ça par des mots. Moi, j'ai l'impression d'avoir un début de phrase comme « immortel est la partie ». Bon, après, c'est caviardé. Et du coup, probablement, « éclaire le chemin semé d'embûches ». Mais je ne suis même pas sûr que ce soit la bonne lecture. Par contre, si je reviens sur la position des pièces, ça me fait penser à la célèbre partie « immortel » d'Andersen. Une partie mythique qui a eu lieu un 21 juin. Je ne sais pas si c'est un hasard ou s'il n'y a rien ici. Bon, ben là, on arrive au point où je commence sérieusement à bloquer. Là. Il y a quand même beaucoup de choses là que je n'ai pas explorées quand même. De ces grands sabots, il viendra à ton secours. Il y a la plume, je ne sais pas si elle a un sens. Le dessin, je l'ai sous-exploité aussi pour l'instant. Je pense que là, c'est le moment où j'ai envie de couper la caméra et vraiment de me plonger vraiment dedans là. Bon, c'est exactement ce qui m'a fasciné dans cette chasse. Hein. C'est encore une fois, c'est pas une question de niveau, quoi. C'est une question de logique, d'observation et de réflexion. C'est tout. Et c'est exactement ce que Poe utilisait face aux Turcs. Je pense que certains d'entre vous vont aller beaucoup plus loin que moi si vous voulez essayer. Tout est en description. Je vous rappelle, vous aurez un accès immédiat après l'inscription. Tout est faisable à distance. Vous n'avez pas à creuser physiquement pour déterrer le coffre. Et dès que vous avez la solution aux 7 énigmes, vous pouvez les envoyer et donc peut-être décrocher l'équivalent de 20 000 euros en or. Pour l'instant, personne n'a encore trouvé. La chasse est ouverte. Pensez à vérifier que vous êtes abonné à cette chaîne si vous voulez voir le prochain All Thread dans 15 jours. Je m'appelle toujours Fabien Licard. À très bientôt. Ciao.